au premier étage. Je te réunis en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tu mets pas de fête à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à tous, vous êtes dans l'émission L'Envolée, tous les vendredis de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel. Et L'Envolée, c'est quoi ? L'Envolée, c'est un journal et une émission de radio contre toutes les formes d'enfermement, que ce soit les prisons pour sans-papiers, les hôpitaux psychiatriques, etc., etc. Et c'est et L'Envolée... donne à lire et à entendre la parole des personnes emprisonnées et de leurs proches. Pour nous contacter...
Ouais, c'est à fpp-l'envolée, 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris. Vous pouvez nous appeler pendant le direct, mais là on a déjà quelqu'un en ligne au 01 40 05 06 10 ou toute la semaine sur le portable au 07 53 10 31 95. Vous pouvez nous écrire par mail à contact@l'envolée.net et sur Twitter et Instagram. Et du coup, autour de la table, il y a Doj.
Salut.
Il y a Rose.
Salut.
Il y a Inès.
Salut.
Il y a Serge au bocal.
Salut tout le monde.
Et Louise qui vous salue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ?
Et ensuite, aujourd'hui, on a une petite, grande, moyenne émission. Donc on va commencer par un appel d'Aurélie, qui est la sœur d'Angelo Garand, qui a été assassinée par le GIGN en 2017. Et donc voilà, elle va nous parler de trucs récents qui viennent de se passer par rapport à la mort de son frère. Ensuite, on aura 4 lettres. Une première lettre de Bambina, une de Fabrice, une de Kémy et une d'Aurélie. Et pour finir, on vous parlera un peu de deux propositions de loi qui viennent d'être votées par le Sénat le 18 mars, donc genre mardi dernier, un truc comme ça. Et voilà où, en fait, très clairement, l'alliance d'extrême droite, entre Retailleau ce qu'on appelle aujourd'hui la droite, mais qui est quand même, qui est une droite bien, bien, bien vénère, quoi, donc elle, les Républicains, ont voté deux propositions de loi qu'ils appellent ouvertement des lois anti-immigration. Donc voilà, on vous parlera de ces deux propositions de loi dégueulasses. Et tout de suite, on va commencer avec l'appel d'Aurélie.
Ouais, est-ce que tu nous entends, Aurélie ?
Oui.
Salut.
Salut, salut tout le monde.
Eh bah, bien, merci beaucoup d'appeler. Du coup, peut-être on va te laisser te présenter et nous dire un peu pourquoi tu nous appelles ce soir.
Oui, moi je suis Aurélie, je suis la sœur d'Angelo Garant. Mon frère, il a été tué par le GIGN le 30 mars 2017. Et il a été exécuté, en fait, puisque, Angelo, d'ailleurs, merci de me donner l'occasion de m'exprimer aujourd'hui, d'envoler, puisque Angelo, lui aussi, il a été beaucoup en prison. Et en fait, il avait 37 ans. Et en 2016, en septembre 2016, il était incarcéré à la prison de Divonne, à Poitiers. Et il a eu une journée de permission où il a décidé de ne pas rentrer. Et Angelo, il a vécu 6 mois dans sa voiture avec son fils. Et puis Angelo, il allait où il voulait, quoi. Il était libre. Et puis le 30 mars... 2017, Angelo, il vient pour manger chez mes parents. Il vient vers 1h. Et vers 1h, en fait, on a une antenne du GIGN qui débarque chez nous. Il y a ma famille sur les lieux, mes parents, il y avait mon fils de 3 ans. Il était en train de faire une grillade. Et Angelo, il a eu le temps juste... mon père a dit, tiens, Vlad Schmitt. Angelo, il s'est juste caché dans une petite remise à sa portée. Et là, on a une vingtaine d'hommes cagoulés armés qui investissent la propriété et on fait partie des gens du voyage. Du coup, vous allez comprendre après pourquoi tout s'explique, quoi. Il débarque et Angelo est caché dans cette petite remise, mais il débarque, en fait, c'est une attaque terroriste le 30 mars. Il débarque et il met toute ma famille à terre sans jamais dire qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent. Mes parents, ils sont malades. Ils menottent mes parents dans le dos, mon frère. Ils menottent tout le monde dans le dos, agenouillés par terre, mitraillettes sous la tempe. Et tout le long, ça a été cerné là. En fait, ce jour-là, ils s'en fait plaisir. Ils ont fouillé partout. On habite un terrain avec un corps de ferme. Ils ont fouillé partout. Ils ont fouillé dans les caravanes. Et en fait, ils étaient prêts à repartir parce qu'ils croyaient qu'Angelo, en fait, s'était fait la malle à travers champ. Et il n'y avait plus de bruit. Et Angelo, il a fait un petit bruit dans cette remise. Et là, il y a 5 hommes du GIGN qui sont précipités dans cette remise. Et ils ont assassiné mon frère de sang-froid et ils ont visé les organes vitaux. Ils ont tiré 5 balles dans le corps d'Angelo. Cœur, les 2 poumons, le foie et le rein. Ils étaient 5 hommes dans la remise et en fait, il y a 2 tireurs. Il y a ma famille quand même qui est témoin. Mes parents, ils ont entendu, ils ont vu. Ils ont peut-être pas vu ce qui s'est passé dans la remise, mais ils ont bien entendu ce petit bruit. Ils ont vu se précipiter dans la remise et il n'y a pas eu de sommation. Aussitôt, ça a été coup de feu. Et de là s'ensuit tout le petit système. On n'a pas été épargné non plus. On n'a jamais été épargné. Je vois pas pourquoi ils auraient épargné non plus ce coup-là. La justice et les médias. Ça a été tout de suite Angelo, le gitan, évadé, en cavale, appartenant à la communauté des gens du voyage, potentiellement armés, potentiellement dangereux. De toute façon, Angelo, il a attaqué leur version des tueurs, c'est Angelo, il aurait attaqué, il y aurait eu sommation. Enfin, en fait, ils sont même pas d'accord dans leur déposition, clairement. Et leur version, c'est que Angelo les aurait attaqués, 5 hommes du GIGN. avec un couteau, avec son couteau, en faisant des gestes circulaires, en malmenant les cinq hommes du GIGN, c'est leur mot. Angelo l'aurait pris deux coups de taser. Ça l'aurait mis en transe parce qu'il a été aussi décrit comme un toxico, alors qu'on sait très bien dans les analyses après sa mort de Tutsi, que Angelo, il avait une grosse dose de THC et il avait du substitut de cocaïne. Donc du coup, la thèse qui serait mise en transe, ça tient pas la route non plus. Angelo l'aurait attaqué ses cinq hommes, il aurait pris une balle en plein cœur, il aurait toujours malmené les cinq hommes, 2, 3, 4 balles. Angelo, il aurait toujours malmené les cinq hommes, il aurait fallu la cinquième balle dans le foie d'Angelo pour qu'il tombe à terre. Après, il menotte Angelo et il démenotte pour le mettre dans une position qui dise plus confortable. En fait, ça, après, on voit dans le dossier que quand j'ouvre le dossier, je vois le corps de mon frère allongé sur le dos avec son couteau dans le prolongement du bras droit. Du coup, on estime qu'il y a eu aussi modification de la scène. Et puis, en même temps, cette remise n'a jamais été mise sous scellé. Enfin, dès la mort d'Angelo, je me suis dit, on va pas en rester là, quoi. Enfin, on connaît, on sait comment ça allait se passer, parce qu'on l'a trop souvent vécu. Et je me suis dit, en fait, ils attendent que nous, comme d'habitude, soit qu'on dise rien ou soit qu'ils nous criminalisent et que la vérité soit jamais entendue, notre vérité. Parce qu'après, tout le long du combat et de la lutte, ça va faire 8 ans bientôt. Angelo, il a été tué le 30 mars. Et en fait, tout le long du chemin de la lutte, en fait, j'ai compris que en fait, la justice a fait son travail. En fait, j'ai compris qu'il y a une vérité, c'est la vérité judiciaire. Je parle de ça parce que dès le lendemain de la mort d'Angelo, où nous, on n'a pas eu le droit de revenir chez nous, où le lendemain, la mise à mort d'Angelo, ils se retrouvent entre eux pour faire ce qu'ils appellent une remise en situation sans les témoins, ma famille, où nous, on était... on n'avait pas le droit de rentrer chez nous.
Oui, vous n'avez pas eu le droit de rentrer chez vous pendant un petit moment, dans mes souvenirs.
Le lendemain, après leur petite remise en situation à eux, quoi. Le lendemain, après-midi, 16h. Ils ont tué Angelo un jeudi. Et on a eu le droit de revenir chez nous le vendredi à 16h. Et en fait, le lendemain, sur France 3, il y a le procureur qui parle, lui parle, il n'était pas là, lui parle, et ben, en relayant encore le mensonge de légitime défense, Angelo, il serait, je sais pas, qui pourrait croire ça, franchement, personne. Mais là, le procureur, il dit un truc qui maintenant, c'est mon arme. Il a parlé de cette notion de vérité judiciaire. Et maintenant, on est 8 ans après, du coup, on a réclamé justice. Déjà, on avait normalement, quand il y a mort d'homme, on ne devrait pas avoir à réclamer justice. Mais on l'a fait, et on peut être fiers de nous, franchement, tous ceux qui ont réclamé justice avec nous, parce que j'ai pas été que la sœur d'Angelo et la famille. On a été ensemble à réclamer justice. Et en fait, on a eu la décision le 6 mars, et je l'ai appris le 7 mars, dans le matin sur les médias, enfin sur Google, quoi. Comme d'habitude, la petite violence, pas ce petit coup à chaque fois qu'ils veulent nous mettre. Mais enfin, je me dis là, c'est le coup de grâce, c'était le dernier. Et en fait, on a reçu une décision de la CEDH, c'est-à-dire la plus haute juridiction, parce que on en était à attaquer l'État français pour faire reconnaître qu'il y a eu violation du droit à la vie d'Angelo. Et cette décision, en fait, elle est en faveur des tueurs. Elle donne raison aux gendarmes. Ouais. Du coup, je me dis, c'est un échec, mais on n'a pas fait ça pour rien. Et en fait, c'est ça, cette vérité judiciaire. La vérité judiciaire, c'est peut-être où on n'entend pas la parole des témoins, encore bien moins quand c'est une famille, encore bien moins quand c'est des voyageurs. Et en fait, quoi qu'il en soit, même si on n'a pas eu justice, n'a pas été rendue à Angelo, mais je voudrais dire en fait que je pense que la justice a fait son travail. C'est ça le travail de la justice. Et on n'a pas eu de... En fait, on a eu des non-lieux, mais des non-lieux de bureau. On n'a jamais eu de procès public dans cette affaire, alors qu'on avait vraiment des vies, quoi. Et j'estime que, en fait, la mort d'Angelo aussi, ça ne regarde pas que nous. ça regarde tout le monde.
Bah oui,
ça regarde tout le monde. C'est vraiment... même si on n'a pas eu justice, de toute façon, depuis 8 ans, je ne marche pas dans la rue que pour réclamer justice. Je marche aussi dans la rue pour pas que pour les morts, je marche aussi pour le droit de vivre, pour les vivants, pour que tout ça, ça s'arrête. Et en fait, même si c'est une défaite, justice n'a pas été rendue à Angelo, plus que jamais, je me dis, en fait, le combat, il continue. Parce qu'au début, on a voulu leur système nous mettre dans la position où ils font passer la mort de nos frères, que ce soit dehors ou dedans, on sait très bien aussi. Ils veulent faire passer ça comme des faits divers, que la réalité, c'est des faits politiques, quoi. Ça concerne l'État. Et puis avant tout, on est quand même des humains, des citoyens, qu'ils veulent ou non.
Ouais, bah, notamment là-dessus, c'est la loi qui avait changé quelques semaines, mois auparavant.
Bah, en fait, sur Angelo, en plus, cette décision, c'est vraiment aussi pourrie qu'elle soit, elle est vraiment mordue. Mmh. Parce qu'en fait, Angelo, il n'est pas le premier tué de la loi du 28 février. C'est la loi du... Le L435, en fait, c'est le permis de tuer, en fait, qui est accordé à l'ensemble, en fait. Bah, les gendarmes bénéficiaient déjà de ça avant, mais ça s'est élargi à la police et jusqu'aux douaniers, qui donnent un véritable permis de tuer, parce que, en fait, cette loi s'appuie aussi sur la protection à l'intégrité des personnes, et alors que le policier ou le gendarme, peu importe, il est maître de ça, en fait, c'est sur ce qu'il a pu appréhender, lui, c'est-à-dire ce qu'ils ont pu imaginer. Donc, on est dans une position où, là, déjà, on les croit toujours. Alors, si en plus, enfin, c'est le cas, dans la loi, s'il dit qu'il a imaginé, enfin, il s'est senti en danger, mmh. Et ben en fait, c'est légal de tuer. En fait, c'est un permis de tuer, parce que en fait, ils ont le droit de tuer, c'est légal, ils ont... C'est un droit. C'est un droit qui leur est donné et qui a été acté jusqu'à la plus haute juridiction, je pense, pour la première fois sur Angelo. Je sais que ils ont tué Angelo en 2017. On a eu un premier non-lieu en 2018. On m'a fait aussitôt appel. En appel, on m'a pris un deuxième non-lieu, mais pour la première fois. Avec l'application de cet article de loi L435-1. Après, on a dû saisir la Cour de cassation, et ça, c'était notre dernier espoir d'aller vers un procès public afin de faire entendre une vraie vérité aux yeux de la société. Et arrivé au stade, à la Cour de cassation, en fait, ils n'ont pas rejeté notre pourvoi. Ils nous l'ont non admis, c'est-à-dire que... En fait, ils n'ont pas eu besoin de motiver. Pour être clair, en fait, c'est comme si que tout partait à la poubelle. Voilà. Donc après, il a fallu, eh ben, c'est fini. Les tueurs d'Angelo, c'est fini, parce qu'ils n'ont jamais passé derrière la barre comme Angelo a pu y passer pour des délits mineurs, quand même, alors qu'ils ont raconté tout un tas de saloperies. On a dû saisir la plus haute juridiction, la Cour européenne des droits de l'homme, pour attaquer l'État français sur violation du droit à la vie. Et la Cour européenne des droits de l'homme a rendu sa décision et c'est acté, en fait, jusqu'à la plus haute juridiction se permet de tuer maintenant sur la mort d'Angelo.
Mais par rapport à l'article de loi 435, tu disais, je crois, dans ton livre... que en fait les mecs du GIGN qui ont tué Angelo, ils avaient eu un briefing sur cette loi 15 jours avant, en fait, donc en fait ils savaient très bien, et qu'on voit bien ce truc
c'est
de
ça,
permis
cette
tuer.
Loi, en fait, elle est du 28 février 2017, et quand on a accès au dossier, en fait, on voit que eux, ils ont reçu la circulaire le 15 mars, et après ils viennent tuer Angelo un jeudi 30 mars, mais en fait ils avaient prévu déjà une interpellation. Ils avaient prévu, je sais pas quoi, pour Angelo, mais une semaine avant, en fait. Ils avaient déjà prévu, Angelo, ils auraient pu l'attraper n'importe où. Angelo, quand ils ont débarqué ici, ils auraient pu demander après Angelo. Ils ne l'ont pas fait. Mmh. On sait qu'en fait, ils ont attendu qu'Angelo vienne ici chez nous. Et en plus, il était 13h. Le GIGN, pourquoi ? Parce que ben, on appartient à la communauté des gens du voyage. Et on est potentiellement armés, potentiellement dangereux.
Et dans la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, ils reprennent en fait tous ces mensonges-là que la justice et que les gars du GIGN ont dit tout le long de ces procédures où vous avez eu des non-lieux, quoi. Et notamment un truc qu'ils disent, c'est que...
Je dirais plutôt que c'est un peu comme une échelle, parce que ils reprennent pas ils disent que si les déclarations sont concordantes, alors que voilà, quoi. C'est battu là-dessus, on a perdu, c'est pas grave. On a encore le droit de parler, on va le dire. Mais... ils reprennent plus sur, les arrêts de non-lieu. Mmh. Et en fait, arrivé à la Cour européenne des droits de l'homme, ils ne reviennent pas sur les faits, ils reviennent sur l'application de la loi.
Mmh. Oui, puis il y a un truc, tu disais là que la justice, elle a fait son travail. Et dans cette décision, il y a quand même de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a vraiment ce truc de comment la justice, elle est là pour entériner les pratiques violentes et mortifères de l'État, où l'un des arguments, c'est de dire, vu que c'était le GIGN, c'était des forces qui étaient bien armées et compétentes. Voilà. Alors que moi, j'ai souvenir que t'expliquais bien quoi, que le fait que ça soit eux qu'ils aient envoyé, c'est qu'ils voulaient mettre un certain niveau de violence dans cette interpellation quoi. Et là, qui confirme vraiment ce que tu dis, c'est que dans ce qu'il y a écrit dans la décision de justice, c'est dire non mais le fait d'avoir pris ces gens là, c'est des gens compétents parce qu'ils savent être très violents. Enfin, ils disent pas qu'ils savent être très violents, mais ils disent voilà, c'est des gens, on a pris les bons policiers quoi pour voilà. Et donc, comme tu le dis quoi, ils font vraiment leur travail quoi, c'est-à-dire entériner les pratiques violentes et mortifères de l'État quoi.
Bah en fait, c'est une antenne du GIGN qui a tué Angelo. Et en fait, les antennes du GIGN, ils ont été créées en 2016. Il y a eu 4 ou 6 antennes du GIGN de créer à cette époque-là, sous couvert de l'antiterrorisme. Ouais. Et l'antenne du GIGN de jouer les tours a tué Angelo en 2017. Et peu après la mort d'Angelo, on a un journaliste qui a fait une enquête et qui a sorti un article dans Libération. Et il détient une source policière qu'il arrive souvent que les antennes du GIGN, ils font des entraînements chez les gens du voyage. Et en fait, je me dis, on est digne d'un film, c'est un truc de malade, quoi. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2018, il y a aussi Henri L'Enfant, un voyageur, il avait 23 ans à l'époque, qui a été tué par le GIGN d'une balle dans la nuque, quoi. Donc, on en est rendu à ça, quoi, où on sert des rats de laboratoire. J'ai l'impression qu'on tout ce qu'on met, des rats de laboratoire. Et en plus, on n'a même pas le droit à la reconnaissance du droit de vivre. C'est quand même fou. Et il ne faut pas rester comme ça, quoi. Enfin, il ne faut pas rester facile à dire, mais il faut le faire. Et puis, je sais pas, c'est de pire en pire. Et ça va pas en s'arrangeant, parce que plus ils en ont, plus ils en veulent.
Mais c'est ce que tu as fait depuis le début, quoi. Enfin, très rapidement, tu as organisé un premier rassemblement à Blois. Après, derrière, tu t'es mis aussi en contact avec les réseaux d'entraide et tout.
Ouais.
Très rapidement, tu es rentré dans la lutte et tu as mobilisé les gens. Tu as fait une contre-enquête aussi. Je sais pas si tu as...
Oui, on a fait une reconstitution... Une reconstitution en 3D sur la base du dossier, c'est-à-dire sur la base de leurs mensonges, avec le génie qui est visible sur YouTube. On a fait aussi, depuis qu'ils nous ont fait ça, on a aussi Didier Fassin qui a écrit Mort d'un voyageur, mais clairement en disant cette notion justement de vérité judiciaire. Et ouais, on doit continuer, quoi.
J'ai l'impression que la justice, ça a toujours été une partie de votre lutte, mais ça n'a jamais été l'intégralité de la lutte. Et en tout cas, ce n'était pas ça qui aiguillait la manière dont vous avez essayé de vous défendre face à tout ça.
Non, ben, en fait, franchement, quand j'ai appris la nouvelle, je suis tombée encore à genoux. Mais je me suis dit, j'ai réagi ce que j'avais vraiment à l'intérieur de moi. Est-ce que j'ai cru en la justice? Évidemment que non, en fait. Depuis 8 ans, j'ai pas cru à la justice. Et ce qui me rassure, c'est que je suis restée humaine parce que quelque part, j'ai un peu espéré. J'ai un peu espéré que mon frère, il aurait le droit de vivre, quoi. Ce jour-là, il aurait le droit d'être digne d'être humain. Enfin, au moins, jusqu'à la plus haute juridiction. Mais non, c'est pas ainsi soit-il. Si justice n'a pas été rendue en zéro, le combat se veut plus grand, alors. J'ai envie de dire, franchement, c'est pas... On a tellement l'habitude, et puis il ne faut pas aussi qu'ils oublient, enfin, les voyageurs qui y sont. Les voyageurs, ils ont été les premiers internés pendant la Seconde Guerre mondiale et les derniers libérés. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est les descendants des internés, des résistants, quoi. On porte notre histoire et avec la justice et les institutions, quoi. Et ça fait de nous aujourd'hui que non, on ne peut pas s'arrêter quand on tient un truc. On ne peut pas.
Et notamment, vous avez fait un rassemblement aussi la semaine dernière. La décision, elle venait d'être rendue.
Oui, on a marché le 15 mars. Ben, c'était prévu, déjà, puisque le 15 mars, c'est la journée internationale contre les violences et les crimes policiers d'État psychiatrique aussi, et judiciaire et pénitentiaire, parce que la violence est grande. Et du coup, on avait, parce que ça n'avait plus trop de sens de marcher pour Angelo à Blois. Mais par contre, ça avait du sens de marcher pour tout le monde à Blois, puisqu'on a commencé comme ça. Quand on marche pour un, on marche pour tous. Et je sais aussi que depuis la mort d'Angelo, à Blois, la police, elle a tué 2 personnes, Zakaria et Yanis. Et du coup, on avait commencé à s'organiser à ça. Et du coup, comme c'est tombé comme un coup de massue aussi, cette décision. Et ben on en a profité pour dire que, de toute façon, on continuera toujours à marcher pour un et pour tous, et on continuera à demander justice s'il le faut, puisque de toute façon, il faut demander justice. Et ouais, le message est bien passé, on était environ en France. C'est bien, ça nous a fait du bien, on avait besoin.
Ouais, c'est ça aussi l'objectif de ces marches, c'est aussi de se refiler de la force, quoi, et pas se sentir seul tout, parce que...
Enfin, voilà, bah, c'est plutôt déverser ce qu'on nous... Comment on... Déverser la colère, quoi, là. Parce qu'on est encore des humains, c'est légitime aussi d'être en colère après ça. De déverser la colère, et tout ça, du coup, tu dis, il faut bien le faire, quoi, on ne peut pas garder ça pour nous. Et ça fait, ouais, c'est une thérapie, en fait, de marcher.
Ouais, bah c'était important, toutes ces marches qui ont eu lieu un peu partout en France. La semaine dernière, on a pris le temps à l'antenne un peu de parler un peu de toutes ces marches, son historique et tout. Peut-être moi, je voulais juste dire un truc. Enfin, tu vois, c'était pour te dire, enfin, déjà... transmettre à quel point ton combat et la manière dont tu l'as porté et tout ça, il nous a aussi filé énormément d'énergie. Voilà. Et ça me semblait important de te le dire. Et l'autre truc, c'est que j'ai trouvé que... Enfin, je me souviens en tout cas quand... je crois que c'était pour la Cour de cassation où tu avais dit que tu demandais justice mais que tu ne demandais pas la tôle pour les personnes qui avaient tué Angelo parce que la tôle, tu savais ce que c'était, voilà. Et pareil, j'avais trouvé que c'était des paroles qu'on entend rarement. C'est pas pour jeter l'opprobre sur ceux qui demandent la tôle, parce que
c'est vrai que quand on demande justice, faut être juste. Et en fait, Angelo aussi, nous enlever, mais ils savent même pas ce qu'ils nous ont pris, quoi. Qu'est-ce qui va rendre justice à ce qu'ils nous ont pris? Rien. Rien. La meilleure des j'aurais le meilleur espoir que j'aurais pu avoir à un procès, c'est que oui, soient reconnus coupables, mais surtout qu'ils n'exercent plus, qu'il n'y ait pas cet article de loi, que ça enlève tous les morts qui s'en est suivis, quoi. Parce que ça a triplé, quoi. Et ça, c'est pas vivable. C'est aussi pour que ça s'arrête. C'est pas que avoir justice pour Angelo et que demain, mon frère, il soit encore tué, ou mon fils, ou peu importe. Eh ben, franchement, ça n'a pas vraiment... Ça n'aurait pas eu vraiment de sens non plus.
Mais toi, tu disais qu'en fait, voilà, le truc qui vraiment... Enfin, en fait, le truc que vous vouliez, c'était un procès public, et c'est ça qu'en fait, vous n'avez pas eu dans la série de non-lieu jusqu'à la décision de la CEDH, quoi.
Voilà, c'était déjà demander justice, c'est demander déjà un procès, c'est demander déjà des enquêtes indépendantes, en fait, aussi, parce que souvent, aussi, dans les dossiers comme ça, il y a souvent de la magouille, enfin, c'est dur, quoi, enfin, il faut... On doit créer. En fait, puisqu'on ne nous le donne pas, on doit créer. Et c'est pour ça qu'on a réussi aussi à faire cette réconstitution en 3D avec le génie sur YouTube. Ça c'est important. On doit...
Oui, parce que l'enquête, vous l'avez faite plusieurs fois et vous avez montré, vous avez mis en lumière. S'il y a quelqu'un qui veut aujourd'hui... savoir ce qui s'est réellement passé et pas ce que la vérité judiciaire dit, oui. C'est possible, voilà. Et ça c'est pas rien comme enfin voilà quoi.
Ouais.
L'un des slogans c'est vérité et justice quoi. Sur la vérité, vous l'avez produite à travers un travail d'enquête sérieux que ça, enfin voilà, que vous avez fait, que ça soit à travers ton bouquin, soit à travers le bouquin de Fassin, soit à travers l'enquête du génie, quoi. Et voilà. Par contre, le truc qui est vrai, c'est que toute cette enquête, vous l'avez mis en lumière, vous avez tout décrit, mais par contre, on ne vous a jamais donné le droit de la confronter à la version des gendarmes. Et de la confronter... Pardon, vas-y, je t'en prie.
Non, vas-y.
Non, mais c'est ça. Et en fait, c'est ça le moment du procès aussi. C'est aussi un moment d'opposition. Et à chaque fois, c'est ça qu'il y a aussi de violent dans cette décision, c'est qu'en fait, on vous a reproché, on sait les procès, enfin voilà, on parle souvent du procès de Laurent ici parce que il a pris le temps de vraiment prendre le temps de décrire l'impact que ça a eu sur lui et que c'était un moment qui était dur, mais c'est quand même un moment où il a pu confronter les gens qui l'ont blessé. Et ça reste, même si c'est très dur, ça reste un moment important, voilà. Et que vous, on vous a même pas donné ce droit-là, quoi.
Je pense que en fait, ça, je sais que c'est violent. J'ai vu la violence de ça, et bon, on n'y a pas. On a pas été justifié, mais je pense qu'on a besoin pour se préparer, quoi. Parce que nous, maintenant, on a besoin de confronter. Mon père, il entend le dernier souffle de son fils. Rien que ça, déjà. Comme si on irait jusqu'à crier n'importe quoi pour avoir des procédures et puis sur mentir. Et même si, là, je dis, on sait qu'il n'y a pas eu de légitime défense. On le sait. Mais même si, même si c'est quand même le GIGN, enfin, on aurait tout un débat, en fait. On aurait eu un procès, il nous aurait fallu une semaine, enfin, voire 15 jours, si on aurait voulu aborder tous les problèmes, en fait, de cette affaire. Mais ça, le procès, en fait, on n'en demandait pas plus. En fait, on n'en a pas demandé plus qu'il n'en fallait. On voulait juste être parole à parole, mais par contre, en public, devant la société, parce que ça regarde tout le monde. Et ça, ben non, il ne nous a pas donné l'occasion. Parce qu'au fond, moi, je sais que ça aurait été un fiasco pour eux. Et de toute façon, tout le monde le sait. Tous ceux qui ont vu notre travail qu'on a produit pendant 8 ans, ils savent. Tout le monde sait.
Ouais. Et là, voilà, le message que tu voulais faire passer aujourd'hui, c'est que même si la justice a fait son travail, il ne faut pas s'arrêter et que ça sert quand même à quelque chose, quoi.
Ouais, bah nous, continuer le nôtre, j'ai envie de dire, quoi. Bah oui.
Non, mais c'est, je pense.
On n'a pas marché que pour les morts, quoi, et on marche aussi pour les vivants. Et ça, c'est important.
Ouais, puis en fait, la société t'a embarqué dans une histoire, et puis la police et tout ça, quoi. Mais ça dépasse aussi et tout, quoi. Mais c'est la même manière que Fatou aussi, elle a continué à se battre après et tout. Mais voilà, parce que aussi, les victoires sur le terrain judiciaire, elles existent quasiment jamais. Voilà, ouais. Mais parce que, comme tu le dis, en fait, la justice, elle fait son travail, c'est-à-dire d'absoudre tous les policiers.
Ouais, il faudrait vraiment élever les consciences là-dessus, parce que quand on dit, ouais, de toute façon, il n'y a pas de justice. En fait, on nous renvoie, ben si, il y a eu une justice. Vous avez engagé des procédures, vous avez eu des non-lieux, enfin, c'est conforme à la loi, quoi, c'est comme ça, c'est le système. On nous répond ça si on dit il n'y a pas eu justice. Alors. Oui, forcément. Je constate, j'admets, il y a eu justice de fait, la vérité judiciaire. Voilà. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Si on veut avoir au moins le droit de vivre, ou au moins avoir même le droit d'être reconnu comme une victime, quoi, parce qu'Angelo, en fait, il n'est même pas une victime. Hein. Il ne sera jamais une victime pour eux. C'est ça le truc. Angelo, il est responsable de sa mort. Jusqu'à la plus haute juridiction.
Ouais, c'est...
C'est ça le travail de la justice.
Ouais, et ils font leurs petits papiers dans leur coin et qui sont jamais publics. Qui se passent entre les avocats et tout ça. Et les avocats, ils peuvent être aussi sympathiques qu'on veut. En fait, ça participe à ce mouvement-là, quoi.
Bah, nous, sur nos avocats, franchement, j'ai pas de regrets.
Oui, ouais, non, c'est pas...
On a fait vraiment tout ce qu'on a pu. Mm-mm. Déjà, à la base, quand on voit 5 balles visées dans le torse d'un homme avec la famille qui contredit cette version, on peut au moins accorder un procès public pour en débattre. Mais ils ne l'ont même pas fait.
Ouais, sur
on
cette...
a fait vraiment tout ce qu'on a pu.
Dans la décision de la CEDH, il y a vraiment un truc qui m'a tordu le bide. C'est à la toute fin, ils disent que vous, vous disiez, ouais, non, mais en fait, il n'y avait peut-être pas besoin d'entrer dans cette remise et puis d'attendre qu'il en sorte, quoi. Et l'argument de la CEDH, c'est de dire, ouais, on ne peut pas trop se mettre à la place des policiers parce qu'à l'époque, ils ne savaient pas trop ce qui se passait, ils ne pouvaient pas être certains qu'il était à l'intérieur et tout ça, quoi. Et c'est du fou.
Encore le GIGN, quoi, quand même, ils sont censés être entraînés pour négocier.
Non, mais c'est ça. Et c'est ça qui est complètement ouf. C'est qu'en fait, tu l'as bien rappelé au tout début de l'histoire. C'est qu'en fait, ils allaient partir et c'est parce qu'ils entendent des bruits à l'intérieur de cette remise qu'ils y vont. Donc en fait, ils savent très bien qu'il est là. Et donc en fait.
La vérité, ça aurait été. Mon père, il m'a toujours dit ça. Dès les premiers instants, toute ma famille m'a dit ça. Ça aurait été n'importe qui. C'était pareil. Même ouais. Si c'était pas Angelo, c'était pareil.
Ah bah oui.
Tellement qu'on s'est passé rapide.
Et puis. Puis dans la décision aussi, on voit tout comment... Ils décrivent aussi comment, en fait, l'État, à l'intérieur de son administration, elle va monter en mayonnaise parce que Angelo, c'est quelqu'un du voyage qui serait dangereux, qui est toujours à des endroits différents tout le temps. Donc, il faut vraiment intervenir très vite, très fort. Voilà. Et il y a vraiment... Enfin, on voit vraiment comment se construit le racisme d'État, quoi. À travers ouais, enfin, autour du concept de pseudo-dangerosité, parce que il est voyageur, quoi. Et ça, c'est assez hallucinant, quoi. Ils font des briefs à l'avant pour expliquer à quel point Angelo serait quelqu'un de dangereux et tout ça, parce que il vit dans sa voiture et que il n'est pas toujours présent au même endroit tout le temps, voilà. Et parce que on sait que ce qu'ils appellent être armé, c'est avoir un couteau pour couper son saucisson, quoi.
Ouais.
C'est vraiment assez, enfin c'est très, enfin en même temps ça décrit très très bien comment fonctionne le racisme d'État, et en même temps ça donne envie de vomir quand on lit ça, parce qu'en fait ce dont on parle c'est de quelqu'un, quoi, et voilà.
Ouais. Non, oui, pour eux, enfin en fait ceux qu'on tue à Angelo, la justice leur a décrit comme si Angelo c'était, je sais pas, bah, je sais pas qui pourrait résister déjà à 4 balles pour qu'ils aient vendu une histoire comme ça. Mais Angelo, appartenant à la communauté des gens du voyage, c'est tout de suite, voilà. Franchement, c'est, ouais, c'est folklorique, c'est le truc, voilà, il les a toujours, le truc, ils sont toujours servis, en fait, pour nous criminaliser, pour faire un genre, on n'est rien. Et ce qui me renvoie au fait, Angelo, aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait comme s'il était rien. Et je me dis, le 30 mars, ils sont venus tuer Angelo, et en plus, ils sont venus faire la loi chez nous, quoi. C'est quand même parce qu'on est des voyageurs. Ça, c'est répété sans cesse. C'est pas que dans la presse, c'est dans le dossier, oui. C'est écrit, ils l'écrivent eux-mêmes que appartenant à la communauté des gens du voyage, quoi. Comme si ça justifie déjà sa mort.
Ouais, c'est...
Telle est la vérité judiciaire, quoi.
Et cette vérité de l'État, et c'est hyper important, grâce à toutes les prises de parole et tout ça que vous avez fait, de rappeler quelle est la vraie vérité qui existe, quoi.
Et puis surtout que faudrait vraiment que, voilà, dire de ça pour faire bouger les lois, parce que ben, c'est bien de... Mais bon, c'est pas d'aujourd'hui, et il faut que ça... Faut que tout le monde, enfin, en fait, c'est pas que les voyageurs, c'est pas d'aujourd'hui, c'est hier, c'est aujourd'hui et demain, en fait, c'est n'importe qui, quoi. C'est, en fait, faut vraiment que tout le monde prendrait conscience que tout le monde est concerné demain. Si même on est les premiers touchés depuis tout le temps et ça paraît genre, oui, bah, puisque c'est eux en même temps, un voyageur en prison, voilà, à quoi s'attendre de... Mais non, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas d'un voyageur en prison, déjà. Quand on nous a donné notre chance à nous, jamais, avant d'aller en prison, Angelo aurait pu s'en sortir. Pourquoi il s'en est pas sorti? Parce qu'il a déjà été il était déjà dans la catégorie du voleur de poule, du voyageur. Voilà. Le racisme, c'est... Ça dessine des trajectoires, en fait. Qui nous fait rester dans leur case. Mais ça, faut en prendre, ouais, faudra appeler le maximum de gens qui prennent conscience que non. On va pas rester dans leur case, quoi. C'est pas parce qu'on a pris une claque par la justice qu'on est couché.
Merci de t'entendre dire ça. Enfin, je veux dire, c'est fort et c'est toujours aussi impressionnant de devoir garder cette lucidité et tout ça dans un moment qui est, enfin, comme tu dis, quoi, ça a été quand même un choc, cette décision, et d'arriver à garder le moyen d'en parler et tout ça, c'est vraiment très très fort. Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais rajouter par rapport à tout ça?
Non, je pense que j'ai été claire, quoi.
J'espère qu'il y aura un maximum de personnes qui entendront ta parole, parce que c'est essentiel.
Ouais, et puis bah, au-delà de ma parole, je voudrais leur donner de la force aux gens qui m'entendent, quoi, que... Voilà. On tape par la justice, mais on est bon. Et eux aussi.
Nous, tu nous en donnes, en tout cas.
Bon, je ne vais pas pouvoir vous écouter, mais...
Bah non, t'inquiète. Merci beaucoup à toi, et bah, tu le sais, mais cette antenne, c'est la tienne quand tu veux.
Ouais, bah à bientôt.
Mais voilà, mais ouais, à très très...
Parce qu'on va faire des trucs, quoi, du coup, on va les dire.
Il faut.
Ouais.
On lâche pas l'affaire.
Allez, force à tous.
Force à toi. À très bientôt, salut, salut.
Salut.
On met un peu de musique.
C'est parti.
Il reste du téchi sur le couteau. Si je l'enfonce dans ton corps, combien ça va te coûter? Et si t'enfiles les gants, gros, tu peux plus douter. Tu fumes la frappe, tu t'envoles, tu sais plus où t'es. Y'a toujours mon gang avec moi en cas d'embrouille. Même quand c'est chaud, faut porter ses couilles. J'ai encore eu de la chance, j'ai vesti la patrouille. La bonbonne et j'ai char, ce soir y'aura pas de fouille. Y'a de la frappe dans le pochetard, le yo qui devient fou. J'suis rentré tard, mais j'ai fait plus de sous. Les poucaves, les pédales, non, on veut pas de vous. À skip, t'es un show, mais bon, on te voit pas devant. Midi minuit, je suis à l'affût des backeux. Je cache le taille des, j'ai vu les stars qui débarquent. Non, je laisse pas le couteau dans la kitchen. Je découpe la quête, la frappe te couche comme Jackie Chan. À midi pile, le guetteur se positionne. À ce qu'il t'appoucave, je veux voir ta déposition. Je rentre cagoulé, je suis dans l'action. Y'a des yokis, je visère dans l'axe. Y'a des meuhards dans le sac à dos. Si on vient dans ton tchécard, on fera pas de cadeau. Si on rentre dans l'appart, on va tout saccager. Beaucoup qui font les fous, en vrai personne agit. Chant, je fais trois passes, je retourne RS. J'aime bien ta bouche, tu vas me la reste. Comme d'hab, j'ai enfumé la pièce. Peux t'ambiancer en te racontant la vie de la tête. Pour niquer l'instru, j'ai pas besoin de vider la taille. Je veux pas béto, donc cher mes lacets. J'ai la dalle des sous, je veux des liasses dans mon assiette. J'ai la dalle des sous, je veux des liasses dans mon assiette. Chant, je fais trois passes, je retourne RS. J'aime bien ta bouche, tu vas me la reste. Comme d'hab, j'ai enfumé la pièce. Peux t'ambiancer en te racontant la vie de la tête. Pour niquer l'instru, j'ai pas besoin de vider la taille. Je veux pas béto, donc cher mes lacets. J'ai la dalle des sous, je veux des liasses dans mon assiette. J'ai la dalle des sous, je veux des liasses dans mon assiette. On vient de niquer un mec, je vois là-bas qui n'étourre. Je viens d'allumer le pet, j'ai déjà la tête qui n'étourre. Désolé ma belle, si je me suis éloigné de toi. La monnaie m'appelle, je recoute mes billets le soir. J'ai caché l'opinel, s'il y a embrouille, je le sors. Avec un trou dans la jambe, comment tu t'en sors? C'est pour faire des sous, si tu me vois traîner dehors, je fais que tartiner pour avoir les couilles en or. On court après la vie d'Aloca. Je suis bloqué, je vois mon bonheur dans l'illégal. Parfois la vie est paradoxale. Pour s'habiller propre, normal on te fait du sale. Dis négro dans ton texte, c'est toi qui vas finir au sol. Rentrer dans ma cité, je te déconseille. Quand je suis triste, y'a que les billets qui me consolent. Pour oublier sa meuf, le pilou il consomme. Calcule pas les raclés, elles vont rien t'apporter. Et les condés dans le bat, les voisins ils ont alerté. Avant le plafond, moi et mes gars on s'est bien concerté. Ce soir je repars avec le butin, j'en suis certain. Le bosseur il a enchaîné la troisième mi-temps. Il lâchera pas la sacoche, même avec les yeux cernés. Je connais ma cité par cœur, je galère les keufs, les yeux fermés. Je connais ma cité par cœur, je galère les keufs, les yeux fermés. Chant, je fais trois passes, je retourne RS. J'aime bien ta bouche, tu vas me la reste. Comme d'hab, j'ai enfumé la pièce, peux t'ambiancer en te racontant la vie de la tête. Pour niquer l'instru, j'ai pas besoin de vider la taille. Je veux pas béto, donc cher mes lacets. J'ai la dalle des sous, je veux des liasses dans mon assiette. J'ai la dalle des sous, je veux des liasses dans mon assiette. Chant, je fais trois passes, je retourne RS. J'aime bien ta bouche, tu vas me la reste. Comme d'hab, j'ai enfumé la pièce, peux t'ambiancer en te racontant la vie de la tête. Pour niquer l'instru, j'ai pas besoin de vider la taille. Je veux pas béto, donc cher mes lacets. J'ai la dalle des sous, je veux des liasses dans mon assiette. J'ai la dalle des sous, je veux des liasses dans mon assiette.
Vous êtes toujours à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur FPP 106.3. Et du coup, bah, aujourd'hui, on fait un peu une émission à l'envers, parce qu'en fait, Aurélie, elle ne pouvait pas appeler trop tard. Du coup, d'habitude, on commence par des lettres, mais là, on a commencé par l'appel d'Aurélie. Du coup, là, maintenant, on va vous lire quatre lettres qu'on a reçues ces derniers temps. Et on va commencer par une lettre de Bambina.
Alors, c'est une lettre qui date du 27 janvier. Coucou les meilleurs, j'espère que tout va bien. Me revoilà, et oui, l'actualité des baumettes, c'est pire que les feux de l'amour XPTDR. Je suis partie à un rendez-vous vendredi, je rentre à 17h. Je vais pour passer un appel à la cabine, ça m'a dit erreur de code. Il me semble ne pas perdre la mémoire. Au final, cabine bloquée. Heureusement, système D. Ce lundi 27 janvier, à 7h, j'en parle à la surveillante. Ok. 8h30, 9h30, 11h, toujours rien. 13h30, encore rien. 16h, walou. Au final, mardi, en gros, qui peut me bloquer la cabine, hormis eux? Parfois, ils sont vraiment teubés. Après, j'avais tissé un lien amical avec une pote devenue ma marraine, mon pilier. Elle était libérable ce jour. Elle voulait me dire au revoir. La matone n'a même pas voulu, puis elle m'a laissé un sac. La bleue me dit non, elle a rien laissé. Je lui ai dit, je sais qu'elle m'a laissé un sac. Je lâche rien, et à 17h, la matone me dit « J'ai un sac pour toi, si j'ai pas le temps, demande demain, lol. » J'ai préféré garder mon calme parce que je sais que la moindre petite erreur, ils me la feront payer et ça, c'est hors de question. Je sortirai en 2025. Après 10h45, la matone fouille, genre une fouille quant à des mouvements. Elle me dit « Déshabille-toi ». Je lui ai dit « J'enlève le haut, je le remets et j'enlève le bas ». Elle a cru que j'allais la faire à sa façon, genre elles aiment bien nous voir à poil. C'est ouf, t'as plus d'intimité. Même mes douches, obligée de les prendre le soir quand les verrous sont fermés. La journée, c'est mission impossible. La distribution des traitements, même ça, d'où c'est un maton homme qui fait la distribution à la MAF. Mais la meilleure, elle sait que je suis diabétique et que j'ai un appareil. Ça se recharge avec un chargeur. Elle me sort, c'est quoi ce chargeur ? Allô quoi ? Elle voulait me chercher le moindre détail. Puis j'avais deux lames, elle les a récupérées. Elle croit que je vais m'arrêter à ceci, j'ai plus de contrôle, et si l'envie de me scarifier refait surface, j'ai pas besoin de lame, teubé. Ça m'a fanée cette journée, parfois t'aimerais que cette journée n'existe pas. J'en arrive à bout les poteaux, je sais pas si je sortirai vivante ou à la morgue. Je fais la forte, mais en vrai je baisse les bras. J'ai ma famille, mes enfants. Hors mes enfants, je suis très famille de sang. Quand ça connaît pas le milieu prison, ça comprend pas. Franchement, tout passe doucement. J'ai même l'impression de mourir chaque jour à petit feu, et là encore, plus avec le départ de ma marraine. Je suis plus en bonne relation avec la famille que je me suis créée. Mais là, j'en ai clairement perdu le sourire. Même l'alimentation, je n'y arrive plus. Je tente de ne pas les laisser gagner ce combat, mais malheureusement, j'arrive à saturation. Je ne peux pas toujours être opérationnelle, je dois faire leur job, écouter les détenus qui ont besoin, faire leur courrier, etc. Je rentre en cellule, je suis en larmes et ça devient trop. Puis tu te réveilles le matin, t'as la boule au ventre, de savoir si tu vas être la prochaine dans leur viseur. Tu te couches le soir avec la peur de savoir si le lendemain, tu vas pas devoir sonner pour te rendre au rendez-vous parce que ça t'oublie. Les baumettes, laisse tomber. Tu passes plus de temps à leur courir derrière pour tout, même avec une liste de mouvements, ça n'y arrive pas. Je suis lessivée de tous ces gogoles. La vie carcérale te détruit dans tout. Plus t'es droite, plus ils tentent de te trouver un truc. Moi, ça y est. Puis la meilleure, ça veut me faire aller en porte ouverte. Pourquoi faire ? Puisque c'est pas un vrai CD fermé de 11h15 à 17h15, c'est nul. Puis le moindre truc, tu repasses en module fermé, histoire de bien t'afficher pour tes RPS ou pour un aménagement de peine. J'en ai ma claque. Franchement, mes seuls moments d'évasion, c'est les échanges avec mes enfants et quand je vous écoute. Encore ce samedi, j'ai fait péter la chaîne à 109 euros. C'est une chaîne que tu payerais dehors à 50 euros. J'ai mis le volume à fond, il y avait parloir libre, c'était ambiance. La matone m'a dit « baisse, sinon, compte rendu d'incident ». J'ai refait péter et je lui ai dit « c'est pas les pads ici, vous gueulez parce que ça porte à la fenêtre, genre les voisins se plaignent, mais il y a des gars qui se plaint ». Je lui ai dit « Wesh, on peut pas parler à la fenêtre, on peut pas mettre le son ». Ils ont serré dans leur tête et quand c'est parloir libre, c'est un moment tellement magique, puis avec ma fille, je suis obligée de faire péter et je m'en balance de leur fameux compte-rendu d'incident. Putain, passer en commission pour avoir mis la musique, j'aurais honte, aucune crédibilité aux baumettes. Je le dis, ça a eu leur concours dans une boucherie. Ça a que ça à faire, se plaindre, nous on doit fermer notre gueule, on peut pas se plaindre. Eux, ils ont signé pour, et tous les jours, ça se plaint, de 8h jusqu'à 18h. Faut qu'ils stoppent, ça ne leur va pas, ce métier. Mais la SPIP ne change pas, elle décore les baumettes. La déco, ça commence du mois de janvier à décembre, entre la SPIP, la S, les matones, le vagmestre, les officiers, les directrices. Vive les décos, mais quand tu les vois, tu prends peur en faisant des cauchemars, XPTDR. L'avantage, c'est que pour le 31 octobre, pour Halloween, il n'y a pas besoin qu'ils se déguisent, ils ont déjà leur masque de film d'horreur, MDR. Voilà voilà les poteaux, comme d'habitude, les news sont hard, mais c'est ce que j'endure entre ces murs. J'espère vous dire que je vais tenir, mais décembre, c'est bien trop loin pour moi, avec leur pression, tu ne sais pas si demain tu seras vivante. Bon courage à ma biquette d'elfe, ne lâche pas, bisous à toi. Et big up à mes 4 sisters, Jade, Louise, Rose et Sylvia, mon petit cordon bleu plein d'énergie, et faut pas oublier le tendre papy Serge, lol. Force, y a pas d'arrangement, Bambina.
Je veux réagir là. Alors déjà, je suis pas si vieux que ça. J'essaye d'avoir une street cred, donc tendre, c'est pas hyper cool. Voilà, mais bon. C'est...
Écoute, tu nous fais bien rire.
Ouais. Ouais, écoute, au moins, tu nous fais rire à la fin, quoi, parce que le reste...
Oui. Bah ouais, parce que c'est quand même une lettre qui décrit bien comment la tôle, elle te met à bout petit à petit, quoi, que c'est plein de petits trucs, de petits machins arbitraires qui vont te grignoter et te mettre complètement par terre avec bah, le temps qui passe et les trucs qui s'accumulent, quoi.
Oui, et puis l'arbitraire des matons qui fait aussi, enfin qui vit en fait sur n'importe quoi et leur intrusion dans ton intimité partout, tout le temps. Le fait que tu aies zéro espace en fait à toi qui t'appartienne, même en fait ton propre corps, quoi. Et que en fait c'est, bah, c'est ça qui fait péter un câble, quoi. Et c'est ça qu'elle décrit très bien dans la manière, enfin voilà, dans la manière où elle dit qu'en fait la vie carcérale ça finit par te détruire, quoi. Et aussi sur ce truc du chantage, enfin à un moment, enfin je voulais revenir sur ça, sur le, elle raconte qu'elle va peut-être passer en régime porte ouverte et tout, et en fait elle direct, elle le relie comme un truc de, en fait ils vont la faire passer en régime porte ouverte, mais en fait elle sait très bien que c'est une carotte et que à n'importe quel moment, si de toute, enfin au moment où elle se comportera pas de la manière dont l'administration pénitentiaire veut qu'elle se comporte, et ben ensuite ils vont la remettre en régime porte fermée, et du coup de fait, en fait, légitimer le fait de le sucrer CRPS, enfin légitimer toute une série de trucs répressifs à son encontre, bah voilà, pour la miner encore plus. Donc en fait, ça lui paraît même pas être une bonne nouvelle. C'est quand même un truc un peu de dingue, ça.
Puis bah c'est quand même ouf à quel point ils font chier sur tout ce qu'ils peuvent, sur tous les moindres petits trucs. Dès qu'ils ont un petit prétexte pour faire chier, puis ça se voit qu'ils les cherchent, quoi. Donc là c'est l'histoire du, bah, par exemple du chargeur pour diabétique. En fait, dès qu'ils peuvent t'enlever un truc en cellule, bah ils te l'enlèvent ou ils te font chier dessus, quoi. Et en fait après faut se battre pour garder en cellule les trucs qu'en fait t'as le droit d'avoir parce que t'as un certificat médical qui dit que t'as besoin de ce tel traitement et tout. Mais en fait on le voit sur 1500 trucs, quoi. Genre bah par exemple, il y a ces histoires, bah là on en parlait tout à l'heure, d'avoir un balai en cellule, il faut un certificat médical. Et même quand tu as un certificat médical, des fois, ils veulent pas te donner un balai, genre tu es obligé d'être à quatre pattes par terre pour laver ta cellule, quoi. C'est que des trucs comme ça. Et on le voit encore là avec cette histoire de radio. Donc elle met la radio trop fort, et donc il la menace de CRI. En même temps, ça les énerve particulièrement. Donc, sûr, si tu mets parloir libre à fond, ça va encore plus les énerver. La semaine dernière, on a lu une lettre où un prisonnier canac explique une petite combine pour quand même recevoir la radio dans la tôle où il est, et donc les matons ça les énerve de ouf, ils coupent le câble, ils disent non mais en fait toi t'as pas le droit à la radio, quoi.
Non mais ça montre combien vraiment ils ont vraiment rien à foutre, quoi, parce que un peu par leur libre trop fort et là c'est bon, ils viennent te casser les couilles pour un CRI, quoi. T'es en mode bon vraiment, enfin ça fait de la, enfin ils font vraiment de la peine, quoi.
C'est ça qui est marrant dans la lettre, hein, quand tu dis ils se plaignent tout le temps, mais qu'est-ce qu'ils foutent encore là, franchement ils auraient mieux fait de se casser. Bah c'est vrai qu'ils passent leur temps à se plaindre, quoi. C'est vraiment un truc de ouf, hein.
Après, c'est aussi qu'ils savent ce comment parloir libre et puis non, c'est pas
ce mur
à courte échelle, pardon. Ça a aussi été utilisé principalement par les prisonnières des Baumettes à Marseille, notamment quand il y a eu des viols lors de fouilles à nu aussi. C'est là aussi pour rappeler pourquoi en fait ça fait pas écho. Enfin, déjà ça serait scandaleux, voilà, mais en fait pourquoi il est d'autant plus nécessaire de s'en défendre particulièrement chez les femmes aux Baumettes, c'est que en fait il y a un historique là-bas qui est pas neutre, quoi, et qui rend de se protéger ce qui rend nécessaire de se protéger de manière beaucoup plus nécessaire, quoi. Et voilà, et parce que en fait les prisonnières des Baumettes ont utilisé les émissions radio anticarcérales de Marseille pour faire sortir tout ça, voilà, ont appelé pour s'opposer notamment aux fenêtres et tout à ces antennes, et voilà. Et donc que ça soit les matons ou les filles à l'intérieur, en fait ça en fait on le sait, et c'est donc c'est pas non plus pour rien, voilà, quoi. Si il l'aurait pas fait chier, si je sais pas elle écoutait du Vivaldi, quoi, enfin voilà, c'est non mais enfin ça fait aussi partie ou les grosses têtes, tu vois, ça fait aussi partie du truc que il y a quelque chose qui se joue là-dessus, quoi.
Oui, parce que toujours le but c'est de briser le lien de solidarité, quoi. Et du coup, bah, à travers la radio aussi, le fait que tu puisses, c'est ce que tu dis, Serge, là, mais voilà, entendre des nouvelles, faire passer des messages et tout, et qu'il y a un truc, bah voilà, qui... Et puis, en fait, c'est aussi, moi, je voulais revenir sur un truc qu'elle dit très bien dans sa tête aussi, elle parle d'une de ses co qui vient de sortir et en fait que c'est sa famille de sang, que c'est une personne qui à l'intérieur où il y avait une solidarité de c'est comme sa famille quoi, et que du coup c'est très dur aussi quand tu perds quand une personne sort et en fait que tu te retrouves seule ou encore plus pas forcément seule mais en tout cas très isolée et que t'as plus cette famille là et cette personne sur qui tu comptais quoi et les liens de solidarité qui permettent et ça c'est aussi représentatif des liens de solidarité qui permettent de tenir à l'intérieur et que quand t'as plus ça ça devient très 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 très, très dur quoi.
Sachant qu'après, ils vont essayer d'empêcher que ces liens-là, ils continuent. Une fois que la co avec qui t'es proche, elle sort, y avait une histoire comme ça aussi de deux meufs qui étaient devenues vraiment proches à l'intérieur et tout. Et quand une est sortie, après, ils ont refusé le parloir pour qu'elle puisse continuer à entretenir des liens, quoi.
Parce que la personne est allée en prison.
Oui, voilà, c'est ça.
Non, mais c'était vraiment ça le bail d'interdiction, quoi. Non, mais c'est...
Après, ce qui est toujours marrant avec la radio, c'est que comme ils peuvent pas la censurer, c'est ce qu'on dit souvent, et ils ont tout un tas, faut couper le fil, faut dire que c'est trop fort, enfin, c'est pas aussi simple que de mettre une lettre à la poubelle, et ça reste un peu rigolo, quoi.
On passe à la deuxième lettre.
C'est la lettre de Fabrice.
Ah bah, je l'ai pas préparée, on va lire la troisième lettre.
Et elle est sur... Tu l'as ?
Ouais.
Désolé.
En vrai, je peux lire la lettre. Je vais lire la lettre de Fabrice, du coup. Sauf si tu veux faire un petit switch en plein milieu. Fabrice Borromée qui nous écrit de la centrale de Vendin le 13 mars 2025. J'espère que vous allez bien. Je voulais dire qu'il y a quelques jours, je faisais de la boxe dans la salle. Et comme tout vrai boxeur, on pousse des cris afin d'aller au maximum de sa puissance. Et le chef de détention de Vendin est rentré dans le bâtiment et a dit qu'il ferme sa gueule, Borromée, et nous casse les couilles. Et là, je l'ai vu et je lui ai demandé pourquoi. Il me dit de fermer ma gueule. Il m'a dit que comme je suis sourd, je me fais des films. Il n'a jamais dit ça, et j'ai mal compris. Et comme toujours, il se croit au-dessus des lois. Et sache que ce chef de détention ne m'a jamais aimé à Vendin, vu qu'il me refuse tout ce que je demande à Vendin, parce qu'il était là en 2015, quand j'ai pris le directeur en otage, et que j'ai pris 6 ans de prison, voilà quoi. Tout ce que j'espère, c'est qu'un jour, je pourrai rentrer chez moi en Guadeloupe, et revoir ma famille, profiter de ma culture, et les bons plats de chez moi, comme le colombo de poulet, ou de porc, avec du riz, le madère avec le ragoût de porc, la banane jaune avec la morue, le gâteau tourment d'amour coco et de goyave, et d'ombré, avec des queues de cochon. Et le rhum local, tant que ça me manque depuis là 15 ans. Et je garde espoir. Bon les amis, prenez soin de vous et que le soleil du bonheur réchauffe vos cœurs. D'accord. L'ami papillon.
Écoute, merci beaucoup. C'est important, ces souvenirs. Et pas pour rien. C'est que, on a souvent décrit à cette antenne à quel point... Il t'avait déraciné en t'amenant en métropole, parce que pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Fabrice, Fabrice a été ramené en métropole il y a bientôt 15 ans.
En 2011, ouais.
En 2011, qui depuis n'a cessé. Enfin voilà, je vous invite, il y a une émission il y a 3 semaines dans laquelle on revient bien sur son parcours. Il n'a cessé en fait de demander à pouvoir rentrer. Et vu qu'il a demandé selon des critères posés par la justice qui ne sont pas les bons, après avoir demandé de manière. Tout à fait légal et tout ça, mais après derrière il a dû faire des prises de parole que d'autres appellent des prises d'otages pour demander ces transferts et notamment pour pouvoir assister à l'enterrement de son père. Et donc c'est pas rien, parce qu'en fait ces souvenirs-là, ça permet aussi de se rattacher un peu au pays, quoi, et tout. Et puis la bouffe, c'est quand même fait partie des trucs qui sont un peu essentiels. On peut renvoyer au bouquin un peu de bon sens, dans lequel en fait déjà, enfin il y a tout le truc de bouffer, tout ça, la bouffe industrielle dégueulasse qui est filée par la paix, c'est vraiment infernal. Et puis donc le fait de se faire de la bouffe à l'intérieur, déjà ça permet un peu de passer le temps, et au-delà de ça Bah, c'est aussi améliorer son quotidien et tout ça. Mais sauf que bah, y a certains bouffes, y a certaines épices que tu vas pas pouvoir cantiner, ce genre de truc, t'as pas le matos. Et donc, j'imagine bien qu'en fait, bah, voilà, tu peux pas te faire la bouffe comme t'aimerais, celle que t'aimerais pouvoir bouffer, et ça depuis 15 ans, quoi. Ce qui est quand même vraiment une dinguerie. Puis le reste.
Bah. Ouais, pas aussi. Si, en fait, il raconte que l'acharnement, il continue sur ce truc des insultes racistes quotidiennes qui se prend dans la gueule. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on en avait parlé il y a 3 semaines. C'est qu'actuellement, Fabrice, il demande à ce que cette situation, elle s'arrête parce qu'il est en train de serrer et qu'il en peut plus de se faire insulter toute la journée par des matons, quoi. Et là, la scène qu'il raconte, c'est quand même vraiment frappant parce que. Enfin, il avait raconté d'autres trucs dans la lettre qu'on avait lue la semaine dernière, quoi, les insultes, bah voilà, sur les mouvements, parce qu'il voit que des matons. Fabrice, on rappelle qu'il est à l'isolement, hein, donc en fait, les seules personnes qu'il voit toute la journée, c'est des mecs qui l'insultent, quoi. Mmh. C'est quand même un peu intense. Mais que là, même quand il fait son sport, en fait, il peut pas être tranquille, quoi. Il peut pas faire le son qu'il veut quand il fait du sport. Que les matons, ils reviennent encore l'insulter derrière. C'est.
Oui, puis c'est pas que les matons. Enfin. Là, il décrivait une équipe de matons qui l'insultait régulièrement. Là, ça devient le chef de détention qui vient pendant qu'il fait son sport et qui se permet de l'insulter. Et alors même qu'il y a eu de nombreux courriers qui ont été envoyés et tout, bon, on n'a pas grand espoir malheureusement que ça serve à quelque chose, mais encore, ça montre encore que ça sert encore moins à quelque chose parce qu'en fait, c'est encore plus que l'équipe de matons, c'est leur chef qui vient l'insulter comme ça, enfin gratuit quoi.
Et en plus, qui lui dit non mais t'as rien entendu, t'es sourd, ce qui est vraiment particulièrement immonde parce que effectivement, Fabrice a perdu l'audition à une oreille et et ça baisse de ouf à l'autre oreille, précisément à cause des matons, parce que un moment où il voulait pas sortir de sa douche. Pour revendiquer, il me semble que c'est son transfert, les matons lui ont envoyé une grenade dans une douche qui fait moins d'un mètre carré et ça lui a fait perdre justement l'audition. Donc c'est vraiment encore plus immonde de se foutre de sa gueule sur cette question d'audition alors que c'est eux qui en sont responsables.
Et c'est là à quel point ils sont sadiques, quoi. Enfin, franchement, je pense qu'il n'y a pas d'autres termes. Voilà, c'est vraiment... Et tout, et bon, bah voilà, ça se passe à Vendin. Donc, là, pour faire écho aussi à l'émission de la semaine dernière, c'est pas rien. Voilà, ils vont pas remplacer tous les matons de là-bas, ça c'est sûr. Donc, ça décrit aussi l'ambiance En fait, enfin voilà, c'est vraiment comment les gens sont prêts et en fait ont déjà ces pratiques-là. Mais juste, on va leur donner encore plus de pouvoir.
D'argent.
Plus d'argent, plus de pouvoir, tout. Voilà quoi. Donc, c'est clairement hallucinant et moins de personnes. Moins de prisonniers à l'intérieur. Donc, ils vont pouvoir encore plus glander quoi. Donc c'est voilà. C'est vraiment c'est vraiment symptomatique de ces taux-là quoi et tout quoi. On passe à
une troisième lettre. C'est une lettre qui nous vient de Kémy, du coup, qui date du 14 mars. Et donc, Kémy, il est à la centrale de Moulin-l'Isère. Coucou l'envolé. Wake Up Café n'a pas sauté avec les permes. Ils me suivent le reste de ma détention. La dernière perme culturelle que j'ai demandée a été annulée, soi-disant parce que la paix n'est pas en mesure de l'organiser. Mais en vrai, c'est à cause de Darmanin. En fait, c'est au bon vouloir du directeur de la tôle. Il peut suivre ou pas suivre Darmanin sur son délire d'interdire toutes les activités ludiques. De toute façon, à Moulin, il n'y a pas trop d'activités. Moi, je fais de la médiation animale et depuis ces annonces, certains matons disent ouvertement que c'est une activité à interdire car ça ne servirait à rien, entre guillemets, pour les détenus. En vrai, c'est qu'avec moins d'activités, ludiques ou non, il y aurait moins de mouvements, donc moins de boulot pour les matons. Je vous ai dit qu'une partie de l'étage sert aussi d'isolement. Actuellement, ils ont 3 détenus à avoir une gestion isolée. En gros, ils sont au QI, mais en détention ordinaire. C'est un truc de ouf. Soi-disant qu'il n'y a plus de place au QI. Vous imaginez ? Même en centrale, je commence à voir une surpopulation carcérale. Dans mon étage, il y a une 20aine de cellules et elles sont toutes prises. Avec Darmanin, on part à la catastrophe. Il faut bien se rendre compte qu'il est en train de faire des prisons de haute sécurité. Isolement complet, contact avec les proches quasi inexistant, aucune perspective pour les détenus. Bref, c'est un truc de ouf. Un gros big up à toute l'équipe, à bientôt, on lâche rien, il n'y a pas d'arrangement. Kémy.
Bah, merci beaucoup. En vrai, ça fait vraiment écho Ce qu'on a pu raconter et tout ça, on savait pour l'Île-de-France principalement et tout ça, mais enfin on avait bien compris que ça s'appliquait à peu près partout. Donc là que ça soit à Moulins, voilà, c'est pas clair ce que je dis, je parle des activités. La suppression des activités entre guillemets ludiques et provocantes qui est en détention par Darmanin, et donc remise au compte-goutte par les directeurs d'établissement, quoi. Donc, ça décrit bien comment ça s'est passé et aussi comment les rapports de force locaux vont jouer sur est-ce qu'on va avoir des activités ou non, et tout ça à l'intérieur. Et ça, c'est quand même vraiment un truc absolument essentiel. Les directeurs d'établissement, en fait, ils sentent bien, en fait, si à l'intérieur de la détention, en fait, c'est tendu ou pas. Et donc, ils vont pouvoir avoir c'est un nouvel outil de gestion, en fait, pour les activités.
Oui, puis là, de raconter, en fait, qu'il entend les matons râler sur telle ou telle activité. En fait, ouais. On sait très bien que les matons, ils vont aller mettre la pression sur la direction s'il y a un truc qui leur plaît pas. Et c'est une activité, en fait, ils commencent à avoir la flemme de le faire. Et la circulaire de Darmanin, elle leur donne encore plus d'espace pour faire ça. Donc s'ils en ont marre de faire un truc, ils vont juste pouvoir aller foutre la pression à la direction en disant « Non, mais voilà. » Et en fait, le directeur, ce sera super facile pour lui, vu qu'il y a cette circulaire maintenant.
Ouais, parce que c'était déjà souvent le cas pour les associations et tout ça, dire est-ce que vous participez réellement bien à la réinsertion et tout ça, et tout, mais ils attaquaient pas frontalement en foutant tout le monde dehors, quoi. Et donc là, maintenant qu'ils ont foutu tout le monde dehors, on va redéfinir une autre manière d'être participant à la réinsertion, et donc tu vas pouvoir faire sauter, parce qu'en fait, vu que la réinsertion ça veut absolument rien dire, et que l'administration pénitentiaire en a rien à foutre de la réinsertion, en fait tu peux mettre n'importe quelle activité dans la réinsertion, tu dis non mais si, ça fait un rapport avec l'extérieur, donc de toute façon, ça participe à la réinsertion.
Puis là, il y a un autre truc qui tournait un peu, c'était pas dans la circulaire d'Darmanin, mais il l'a dit, je sais plus quelle antenne de radio, c'est qu'en fait, il y a un peu un truc qui tourne comme quoi, en fait, si les activités, ça sert à la réinsertion, à quoi ça sert d'en faire pour les longues peines ? Parce qu'en fait, il faudrait juste faire des activités pour les mecs en fin de peine, parce qu'en fait, la réinsertion, on peut la gérer, je sais pas, 2-3 mois avant que le mec sorte, et ça suffit, quoi.
Oui, puis de toute façon, il y a des gens qui sont irrécupérables. Puis de l'autre côté, va y avoir des gens qui sont réinsérables. Donc, vu que la prison, elle trace déjà une ligne entre, dans la société, les gens bien et les gens pas bien, là, ce qu'ils veulent aussi faire maintenant, c'est tracer une ligne aussi entre les prisonniers qui seraient réinsérables et ceux qui sont irrécupérables et qu'on va aller pouvoir foutre en prison pendant des années et des années, les couper complètement de l'extérieur et du lien social, voilà quoi.
Méline qui est toujours très très fine en fait. C'est ce qu'il décrit très bien sur en fait les quartiers d'isolement qui arrivent en quartier ordinaire en fait, c'est-à-dire que en fait leur fonctionnement d'isolement de prison narcotrafiquants en fait sont voués à s'élargir et en fait les méchants à toujours être à des plus grands méchants et en fait après à venir dans les détentions entre guillemets simples, venir en fait mettre les mêmes conditions que en fait ils ont mis parce qu'en fait ils vont toujours retrouver les mêmes méchants dans toutes les tôles en fait parce que leur catégorie de méchants en fait c'est pour ça qu'elle fonctionne, c'est justement pour venir justifier ces régimes là encore plus et là ça marche aujourd'hui sur des trucs des gros narcs, on en parle beaucoup en ce moment, désolé hein, mais bon voilà, on sert un peu à ça quoi, mais voilà, ça marche sur les gros narcotrafiquants, la dizaine mafia, parce que ça fait très peur aux gens. Mais en fait, voilà, on sait très bien que c'est des trucs qui vont servir à agir à d'autres personnes, ce qui est déjà le cas. Et en fait, ça n'a pas fini, cette ligne, elle n'a pas fini de bouger, en fait.
Et puis d'englober de plus en plus de monde. Parce qu'en fait, cette ligne-là, elle est principalement déterminée par le nombre de places qu'ils ont et tout. Et donc là, ils ont dit, on va ouvrir deux établissements, ça sera Vendin et Condé. Mais ils annoncent déjà qu'en fait, il va y en avoir plus. Ils annoncent déjà un chiffre de 800. Là, en fait, ça avait commencé en fait, avec l'ouverture des quartiers Maison Centrale, en fait, qui était pas rien dans les CP, que ça soit à Réo et tout ça. Où en fait, t'avais des quartiers de Maison Centrale où t'avais quasiment pas de régime porte ouverte et tout, et donc là en fait on va continuer à diffuser, à étendre les quartiers d'isolement, et donc là on va pouvoir mettre des cellules d'isolement dans un quartier, après derrière on va pouvoir commencer à mettre des cellules isolement total, je sais pas comment, QHS quoi, en plus, donc c'est sûr qu'en fait, ils vont continuer à étendre de ouf. L'autre truc qui, je pense, était important dans ce que disait Kémy, c'était sur le rapport à la surpopulation qui débarque en centrale et en CD. Ce qui est absolument pas rien, quoi, parce que c'est quand même toujours des espaces qui avaient été protégés, t'étais toujours en dessous des 100% d'occupation dans ces établissements-là, parce que t'avais le tampon des maisons d'arrêt et tout ça. Là, on avait tellement un niveau de dinguerie au niveau de le surenfermement de la population que commence à y avoir plus de personnes qui sont enfermées, mais surtout le mouvement qui, je pense, est le plus, qui explique le plus ce qui est en train de se passer, c'est le fait qu'en fait ils sont de plus en plus en train d'isoler des gens, c'est-à-dire qu'ils sont en train de fermer des cellules dans les établissements les plus sécuritaires de France. Et donc ça fait que des gens qui étaient en CD ou en centrale, on va pas pouvoir les refoutre en maison d'arrêt parce que, enfin, c'est juste pas tenable, quoi. Mais donc ça a des conséquences, c'est que vu qu'on va fermer un certain nombre de cellules, bah au bout d'un moment on va se retrouver en surpopulation. Et donc c'est le durcissement des conditions de détention pour soi-disant quelques personnes qui en fait va s'imposer à absolument tout le monde à travers une certaine surpopulation qui va se déplacer ailleurs, quoi.
Oui, et puis avec ce truc, en fait, l'isolement, bah, c'est un régime, je sais même pas comment on appelle ça, bah, c'est un régime de détention et tout, mais en fait là, plus ça avance, plus il y a 1500 nuances de régime d'isolement, ouais. De pseudo-isolement, de c'est pas officiellement de l'isolement, mais en fait c'est les mêmes conséquences. Donc là, tu te retrouves avec des mecs qui sont en régime QI en détention normale, à Condé et Vendin dans leur nouveau super régime de merde, là, ils disent pas isolement, en fait, ils disent c'est tout un autre truc, mais en fait techniquement c'est pas le truc d'isolement qui existe dont on parle quand nous on dit quartier d'isolement. Donc c'est toujours plus de nuances de ce truc là qui est en fait ardos, quoi.
Oui, c'est ce qu'on disait la dernière fois, on n'arrive même pas à comprendre en fait si dans leur nouveau régime c'est un régime d'isolement ou en fait bah, ils sont à l'isolement, donc ils font leur promenade seuls, ou alors en fait non, ils sont en fait 4 ou 5 par, enfin là je parle de Vendin et Condé, 4 ou 5 par elle, et en fait du coup non, ils vont pas faire leur promenade seuls, mais en fait ça devient délirant, quoi. T'es en train de te dire, mais enfin, ils vont créer combien de nuances différentes, et c'est totalement, moi je te rejoins totalement, Serge, sur ce truc là je pense c'est ce que montre sur, enfin, ce qu'on voit sur Vendin et Condé là, sur le fait que pour l'instant il y a une douzaine de personnes par aile et tout, et là ils veulent en mettre 4-5, donc forcément en fait va y avoir de moins en moins de place aussi en fait, et bah c'est, enfin voilà, c'est comme d'hab, de toute façon c'est eux qui créent la surpopulation après, quoi.
Bah en tout cas, plein de force, Kémy et tout, voilà, parce qu'en fait, quand même, enfin, tu vois, tu nous parles de trucs un peu combatifs et tout ça, et voilà, mais en fait, on sait aussi que quand t'as des permes qui sautent et tout ça, c'est toujours très rude et tout. C'est cool qu'il y ait quand même des permes qui commencent à être acceptées et tout. Essayons de voir le verre à moitié plein. Mais force, parce qu'on sait que ce genre de décisions, surtout quand elles sont aussi arbitraires que « Ah bah, tout compte fait, on n'a pas envie de l'organiser. » Voilà, en fait, là, je le dis de cette petite voix fluette, gna gna gna, mais en fait, à l'intérieur, ça rend complètement ouf. Et garder son calme dans ce genre de situation, c'est être vraiment très, très fort. Et donc, plein de force à toi, parce que voilà, c'est vraiment l'arbitraire le plus total que tu découvres pas à ce moment-là, c'est sûr, mais quand on t'en remet une couche, c'est toujours proprement insupportable, quoi. Dernière lettre ?
Ouais, la dernière. Alors, c'est une lettre d'Aurélie qui date du 11 mars 2025 de Fresnes. Bonjour à toute l'équipe de l'Envolée et bonjour à tous les détenus. Des nouvelles de Fresnes. Alors, pour répondre aux questions des expertises, en criminel, les expertises sont valables 2 ans. Donc, si tu as une expertise du 6 janvier 2024, le temps que l'expert rende son rapport, il y a logiquement 2 mois pour le rendre. En fait, les expertises doivent être à jour pour les permissions et l'aménagement de peine. Donc, moins de 2 ans. J'espère avoir été claire. 2 mois pour rendre le rapport. Et moi, il m'a expertisé le 6 novembre 2023. J'attends toujours le rapport. Remercions le garde des Sceaux qui a décidé de supprimer pour Fresnes la gym douce, plus le yoga. Le yoga était réservé au CN2, le slam et l'activité collage ont continué. Aujourd'hui, parloir avec ma visiteuse. On sonne quand l'heure vient. Ma visiteuse part et moi, on m'oublie. Je sonne, j'appelle, personne. Quand à un moment, une surveillante dit « Il n'y a pas quelqu'un dans le parloir ?»« Ah madame, désolée, la collègue vous a oublié. » 30 minutes d'attente presque. Je suis remontée, énervée. Non mais oubliez les détenus. Ah là là, Fresnes. Voilà les nouvelles. Des bisous, Aurélie.
Eh bah, merci beaucoup pour ta lettre, Aurélie. En fait, ça continue bien la lettre de Kémy sur cette question des activités, quoi. Parce que là, on voit du coup cet arbitraire-là où en fait toutes les activités ludiques, avec des guillemets, ne sont pas supprimées, mais la direction a fait son petit choix, quoi, en supprimant la gym douce et le yoga, mais pas le collage et je sais plus quoi d'autre, quoi. Donc c'est vraiment ce truc, c'est déjà en fait en place qu'ils vont juste choisir les activités qu'ils décident de garder et celles qu'ils décident de pas garder, quoi.
Ouais, puis là, ça monte vraiment bien. Parce que normalement, soi-disant, le sport, ça devait pas être supprimé. Mais donc, la gym douce, c'est pas du sport.
C'est peut-être plus
le collage, c'est du sport. Le collage, c'est du sport.
Donc, c'est là où, enfin voilà. En fait, ça démontre par l'exemple l'arbitraire, mais surtout le gros pouvoir que ça a rapporté aux chefs de détention et tout ça. Et juste, en fait, aussi, ça a été. Parfois, ça pouvait être une bataille. Je pense que c'est plus du tout le cas maintenant. Mais en fait, à l'époque, c'était aussi des batailles que tu peux avoir avec la direction de l'administration pénitentiaire qui disait, mais quand même, accepter quelques activités. Parce qu'ils savaient que ça calmait la détention et tout ça, mais sauf qu'au niveau local, les directeurs et puis les surveillants, ils disaient non, mais en fait, on n'a pas envie de faire les activités et tout ça. Ils étaient un peu forcés par la direction de l'administration pénitentiaire. Là, maintenant, ça roule, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment hallucinant, quoi. Et après, le truc d'avoir été oublié, c'est un truc, mais c'est récurrent, quoi. Voilà. Et c'est aussi ça, et on en parlait dans l'émission qu'on avait fait sur les activités il y a 2-3 ans, là. Quand tu interviens en détention et tout ça, ça fait partie de ton rôle, toi, de t'assurer qu'en fait, ils soient vraiment allés chercher tous les gens de la liste et tout ça. Parce que sinon, tu peux être sûr qu'il y a certaines personnes qui vont être oubliées. Soit parce que il y aura une embrouille la veille avec quelqu'un, soit parce que, en fait, tout simplement, ils auront la flemme d'aller jusqu'au bout du couloir parce que c'est trop loin, quoi. Et ça, vraiment, quand tu entres à l'intérieur de la détention et que tu fais une activité, tu dois toujours t'assurer qu'il y a tout le monde contacté, parce qu'en fait les oublis qui sont pas des oublis, en fait c'est juste de la flemme ou une vengeance de la part des surveillants, et ben ça c'est récurrent, en fait.
Ils ont vraiment pas envie d'en branler une, quoi. C'est vraiment dingue.
Ouais, mais la lenteur du système, de tous les trucs judiciaires comme ça, c'est fait exprès, faut pas l'oublier, hein. Parce que eux ils oublient qu'il y a des gens derrière, mais en fait c'est des gens qui attendent ces rapports et qui attendent de pouvoir être transférés dans des endroits où ils ont leurs proches et tout, enfin c'est ça qui se passe, quoi. En vrai, c'est des flemmards, mais enfin il y a pas que ça non plus, quoi.
Puis on pourrait dire que 30 minutes c'est pas beaucoup, quoi. Il y a des gens peut-être, je sais pas, de l'extérieur qui pourraient dire ça. En fait, c'est super long quand t'es enfermé dans une boîte sans avoir l'heure, sans savoir ce qui se passe, sans savoir à quel moment ils vont te sortir, quoi. Et même sur les délais habituels de ce genre de truc, enfin en fait il y a des proches qui racontent aussi à quel point c'est horrible quand en fait ils viennent reprendre le prisonnier ou la prisonnière avec qui t'es au parloir, et qu'ensuite ils te laissent 5 minutes, ne serait-ce que 5 minutes quand t'as pas l'heure, tout seul avec ton somme, que c'est vraiment genre aussi une violence de ouf de juste attendre tout seul dans cette boîte de parloir, quoi.
C'est clair. Et puis peut-être pour revenir un peu sur cette question d'expertise, parce que en fait ça vient d'une lettre auparavant dans laquelle elle nous avait expliqué qu'elle avait toujours pas eu les résultats de son expertise, et donc elle pouvait pas faire ses demandes d'aménagement et tout, et donc on lui demandait un peu des précisions, voilà, sur quels étaient les délais et tout à faire. Donc voilà. On va peut-être passer un peu à l'agenda. Alors moi j'avais un truc à dire à l'agenda, mais j'arrive plus à le retrouver. Mais c'est une manif qui a lieu à Paris. Voilà, je vous laisse meubler.
Bah non, mais on va faire ça très rapidement, mais peut-être on en vous en causera. Mais du coup là, je vous disais tout à l'heure sur le fil de l'émission que nous avons pas très très bien tenu, comme vous pouvez le voir. Que du coup, le 18 mars, il y a donc la droite et Retailleau qui ont fait une super alliance pour passer deux nouvelles propositions de loi anti-immigration. Et du coup, donc sur ces deux propositions qui sont simplement passées pour l'instant, enfin simplement, c'est déjà pas mal, mais qui ont été votées par le Sénat sans aucun souci, parce que la droite y est majoritaire. En gros, dans ces deux propos, enfin du coup, ils doivent passer ensuite à l'Assemblée nationale, donc c'est pas encore... bref. C'est pas encore voté, c'est pas encore fait, c'est pas encore ça que ça... On le dit souvent en ce moment, parce qu'il y a un nombre innombrable de trucs qui se passent, mais voilà, c'est pas encore fait, c'est pas encore, entre guillemets, dans la loi, quoi. Mais en tout cas, ce qu'ils souhaitent faire, en tout cas, c'est donc... en fait, ils veulent allonger la durée de rétention des personnes sans papier au sein des CRA et des individus qui considèrent comme des étrangers dangereux. Bon, là, on revient aussi sur ce terme de... Voilà, qu'on discutait alors, donc des individus dangereux qui donc devraient être enfermés beaucoup plus longtemps, dont dans des espaces, on rappelle, des CRA qui de base étaient des endroits d'enfermement où les gens étaient censés rester 30 jours. Et donc là, ils veulent le passer à 210 jours.
Et même, je crois que vraiment au tout début de la création, c'est quelques jours.
Ah oui,
c'est vraiment.
Ouais, je suis tellement habituée maintenant, je suis en mode. Hein.
Mais c'est vraiment, je crois qu'au début, c'était 3-4 jours maximum.
Voilà. Et du coup, là, ils voudraient le passer à 210 jours. Donc, c'est déjà le cas pour les personnes étiquetées terroristes aujourd'hui. Mais donc, ça équivaut à quasiment 7 mois. Et en gros. Donc, ce serait des personnes qui seraient condamnées pour un crime ou un délit qui seraient punies d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Et aussi, il rajoute, ça devient très à la mode, donc cette menace, le fait d'être une menace d'une particulière gravité à l'ordre public, donc voilà, qui ne veut rien dire. Enfin, c'est à la libre décision des institutions en fait, de catégoriser et des renseignements, de catégoriser des personnes comme une menace à l'ordre public, quoi. Et donc, pour toutes ces personnes-là, la durée d'enfermement pourrait être 210 jours et Darmanin direct, Rotaillot, annonce direct en fait, le fait de passer à 18 mois, enfin qu'il va faire passer, il souhaite faire passer à 18 mois d'enfermement les sans-papiers en CRA, quoi. Et donc, et la deuxième chose la deuxième proposition de loi, c'est tout ça, c'était des trucs qui étaient dans la loi Darmanin, mais que là, ils veulent faire repasser parce que ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Et notamment le fait de couper les prestations sociales, enfin conditionner les prestations sociales, donc les APL, à une durée de résidence en France et donc au fait d'avoir à une durée de résidence régulière, donc au fait d'avoir les papiers. Et donc, du coup, il faudrait avoir donc 2 ans de durée de résidence régulière pour pouvoir avoir droit aux APL, à la CAF et donc à toute une série de droits sociaux auxquels des personnes avec les papiers ont accès. Chose qui a été censurée par le Conseil constitutionnel. Et donc, ils le remettent là, comme si. Parce que de base, la proposition, c'était 5 ans. Et là, donc, ils se disent peut-être 2 ans, ça va passer en vrai. Et donc, ils réessayent. Et puis, bien sûr, je pense que peut-être à la 5e fois, au bout d'un moment, ça va passer, quoi. Et donc, voilà, c'est toute cette rhétorique de la préférence nationale qui est, en fait, très affichée. Genre là, c'est vraiment... Enfin, leur discours fasciste est vraiment en roue libre, quoi. Là, c'est vraiment... Voilà, ils assument totalement le fait que des personnes étrangères ne peuvent pas avoir droit à des prestations sociales. Et ça, ça va, en fait... Ces propositions de loi, elles vont dans... c'est déjà ce qui s'est passé sur les textes d'interdiction du voile dans le sport amateur. Enfin, c'est la continuité de tout ce qui se passe au Sénat, tous les trucs dégueulasses de cette alliance entre Rotaillot et la droite. Je prends beaucoup de temps, je suis désolée, je vais finir sur ça, mais on aura l'occasion de vous en reparler, malheureusement.
Et ça se fait dans un contexte où on expulse tous les mineurs isolés de la Gaieté Lyrique et tout ça. Il y a un appel pour une manifestation autonome contre les CRA, les frontières et l'enfermement le dimanche 20 mars à 14h, place de la Réunion à Paris. Donc pour toutes les personnes qui sont à l'extérieur, on vous invite à y aller. Je vous laisse lire le texte d'appel qui se trouve sur Paris Lutte Info, dans lequel ça revient en fait sur tout le contexte que tu nous as rappelé. La rose. Des petits coucous ?
Ouais, on va faire des petits coucous. Du coup, à Nathan, à Aurélie, à Redouane, à Kémy, à l'infâme, à Bambina, à tous les déportés Kanak, à Zouzou, à Pascal, à Blanche et à Fabrice et aussi à Aurélie et surtout à tous les prisonniers, toutes les prisonnières et à leurs proches.
Ouais, plein de force aussi à Aurélie qui nous a appelé aux proches d'Angelo Garand après la décision de la CEDH. Et force, courage et détermination. Et comme d'habitude,
il n'y a pas d'arrangement.
Rediffusion matin, mercredi matin, 8h30.
Carré boy, quand tu sais t'impliquer, tout est carré boy. Carré boy. J'suis pas sûr d'avoir des gants, j'suis pas trop chaud pour la bague au doigt. Dans l'armoire, j'ai caché le Glock pour le mec qui sera plus costaud que moi. J'suis doué pour faire du mal, aucun d'entre eux mérite mon bien. Père de couilles sans frontières pour faire des thunes, j'ai aucun frein. Oh my god, investir dans l'herbe pour offrir un jardin de cannabis. Le vert m'a tué les yeux, le jaune et violet m'ont rendu la vue. Arc-en-ciel dans les poches, aujourd'hui j'connais plus la crise. Maintenant que j'ai du pèse des 09 à peine pour des signatures. Traumatisé par
faire les coupures d'eau. Je suis poussé par les favos à cause de mes fautes. Ma mère me faisait manger du piment. Étant petit, quand je fais quelques fautes, fais attention à qui tu tournes le dos. Si tu veux pas qu'ils finissent avec des couteaux, sois seulement intéressé par ta part, alors qu'il reste la moitié du gâteau. Les mélange pas à ces suceurs, en tous la bosse si je larque un trou du huc. Quand t'as pas les moyens, t'es tout seul après avoir touché le boulot, ça sympathise. Les fréquentations sont pas solides, je te conseille de te faire des nouveaux amis. La Damo, Seven Banks, mes adversaires sont devenus mes groupies. Hey boy, c'est comment ce soir on le fait ou pas? J'ai les armes qu'il nous faut, ce soir on braque ou pas? Hey boy, c'est comment si toi pas mais aussi moi? J'ai deux trois gars fachos qui sont prêts à toquer chez toi. Hey boy, c'est comment ce soir on le fait ou pas? J'ai les armes qu'il nous faut, ce soir on braque ou pas? Hey boy, c'est comment si toi pas mais aussi moi? J'ai deux trois gars fachos qui sont prêts à toquer chez toi.
Ça veut plus rien dire avec 2-3 disquettes, tu peux casser sa porte. Le plaisir, ça c'est dans les boutiques, plus besoin d'agoro, car maintenant y'a les godes. Laisse pas traîner ta gosse sur internet pour pas qu'elle essaie de faire mon Katsumi. Pourquoi remettre la photo sur Secret Story? C'est dans les Simpsons qu'il y a de la pornographie. Mieux seul que mal accompagné, mais la police sont obligés de marcher groupé et présenté. Une putain, un violeur, est-ce que ça lui donnera moins envie de la violer? Un voleur faudra toujours car il voudra manger plus. Une catin reste une catin, même si son père casse sa puce. Le chien court après le chat, l'homme court après la chatte. La femme veut que les sous, donc si t'es fauché, faut que tu tailles. Bye bye. J'ai compris qu'il fallait faire plus de sale. Je mâche pas mes mots, je reste vrai, même si ça peut vous faire du mal.
Hey boy, c'est comment ce soir on le fait ou pas? J'ai les armes qu'il nous faut, ce soir on braque ou pas? Hey boy, c'est comment si t'as pas mes os, dis-moi. J'ai deux trois gars fachos qui sont prêts à toquer chez toi. Hey boy, c'est comment ce soir on le fait ou pas? J'ai les armes qu'il nous faut, ce soir on braque ou pas?